tutti et à tous, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous. Nous sommes là pour le glorifier et nous allons faire à travers sa parole. Je remercie le Seigneur car la présidence, elle était un peu l'avant-première de ma prédication. Hein. On ne s'est pas concerné, hein, c'est-à-dire sur l'évangélisation, hein, sur annoncer la bonne nouvelle. Et tout cela me ramenait cette semaine, oui, j'ai fait une distribution et je mettais de traiter dans, c'était des évangiles, je les mettais dans le boîte aux lettres. Et là, monsieur qui sort, il m'a dit, « Là, qu'est-ce que vous mettez ?» Ben, je dis, c'est l'évangile. Il a dit, « Ah non, surtout pas l'évangile. Hein. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Il a dit, « Je suis juif. » Et donc, pas d'évangile, hein. C'est pas une... J'ai dit, je l'ai posé un peu, j'ai dit, mais connaissez Jésus? Il a dit, ben Jésus c'est un juif, qu'il a dit de bonnes choses, voilà, c'est quelqu'un comme moi, voilà. Et ça m'a un peu rappelé, c'est ce que Jésus, il avait dit, qui dites-vous que je suis? Voilà, des gens, ils ont dit tout et n'importe quoi. Et alors je lui dis, je ne veux pas des évangiles, mais je vais vous parler de Jésus. Il a dit non, il a dit, si vous voulez me parler de Jésus, vous me parlez de Jésus, mais sans nommer les évangiles. Je lui ai dit, vous êtes bien tombé, monsieur. J'ai dit, vous permettez qu'on s'assoie, il m'a fait rentrer chez lui. Et alors je lui ai parlé, je lui ai dit, vous êtes juif. Vous savez bien que les Juifs, ils sont restés dans la loi, n'est-ce pas? Et j'ai dit, vous connaissez Ésaïe? Ah oui, Ésaïe, c'est notre prophète à nous, c'est un des plus grands prophètes. J'ai dit, je vais vous montrer l'évangile à travers Ésaïe. Alors, je lui ai dit, vous avez une Bible? Bon, bien sûr, il n'en avait pas la Bible complète, hein. Mais il avait la Torah, quoi. Alors, je lui dis, ouvrons la Torah ensemble. Vous la Torah, moi ma Bible. Et je lui dis, ouvrez votre Bible, Ésaïe 53. Hein? J'ai dit, je ne veux pas vous nommer le Nouveau Testament ou les Évangiles, mais je vais vous lire que dans l'Ancien Testament. Je lui dis, vous savez, Ésaïe, C'est le cinquième évangéliste pour nous, chrétiens. Pourquoi? Parce que 700 ans avant Jésus-Christ, il a annoncé la venue du Messie. Et ce Messie, c'est Jésus-Christ. Ah non, vous vous trompez, il m'a dit. Parce que Ésaïe 53, il ne parle pas de Jésus-Christ, mais il parle du peuple d'Israël. Israël, vous savez que Ésaïe 53... Il parle d'un serviteur souffrant et serviteur glorifié. Alors, il m'a dit, le serviteur souffrant, c'est Israël. Voilà. Israël, qu'il a souffert, il a souffert tous les maux qu'il peut arriver, et par la suite, Dieu, il va l'élever, parce que Israël, c'est le peuple de Dieu terrestre. Voilà, mais je lui dis, ben, écoutez, alors, et lisons Ésaïe 53 ensemble, hein, et vous allez en réfléchir. C'est un peu comme on a parlé ce matin pour l'étude. Hein. Je ne suis pas là pour juger les Juifs, car Jésus est juif. Hein. L'Église est fondée sur des Juifs, mais sur des Juifs libérés, Juifs convertis. Juifs qui sont passés par la nouvelle naissance, juifs qui obéissaient à Jésus-Christ. Hein? Toutes ces choses-là. J'ai dit, on va voir ensemble Ésaïe 53. Et alors, bon, ouvrez aussi, vous, Ésaïe 53. Vous savez que la Bible, dans la Bible, il n'y a pas de chapitre. Hein? Vous savez bien. Non, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce. C'est des hommes qui ont mis les chapitres dans la Bible. Et on a Ésaïe 53. Mais il ne commence pas au chapitre 53, mais il commence au chapitre 52. Il y a, encore une fois, c'est des hommes qui ont coupé la parole en chapitres pour mieux apprendre, pour mieux la lire. Hein. Et le chapitre 53, il commence au chapitre 52, hein, au verset 13. Voilà, alors ce chapitre-là, il parle du Messie. 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, Ésaïe, il nous parle du Messie. On dirait qu'il était là. Hein? Le chapitre 53, on dirait que c'est un témoin oculaire. Hein? Et alors, je lui dis, écoutez, on va regarder ensemble. Vous dites que les serviteurs, c'est Israël. On va voir ce que Dieu dit. Hein? C'est marqué dans votre Bible, dans votre Torah, et c'est marqué dans ma Bible. Regardons ce que Dieu dit. Hein? Et pour commencer, je le dis, commençons à lire quelque chose. Chapitre 53, lisons le verset 4. 5, 6, 8, 10 et 12. Suivez lorsque je lis. Hein? Alors, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple? Verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, ici, je l'ai dit, vous voyez bien, je lui ai posé la question, je lui ai dit, quand Israël a-t-il souffert pour les péchés des autres? Pas répondu. Quand a-t-il pris pour les péchés des autres? Jamais. Jamais il l'a fait. Donc ici, il ne parle pas d'Israël. Il a dit oui, c'est vrai. Oui, aucun homme, en plus il parle aussi d'aucun homme juste, il aurait pu faire ça. Je dis, et dans un de votre prophète encore, hein, parce qu'il dit, aucun homme juste, il aurait pu faire ça, à part le Messie. J'ai dit, parce que dans vos prophètes, il y a un prophète, le prophète Ézéchiel, qui au chapitre 14, il nous montre, regardez ce chapitre, Ézéchiel 14. Et ça, Ésaïe, il l'a dit encore une fois, hein, il a dit, aucun homme juste, il aurait pu expier le péché. Pourquoi? D'abord parce que la Bible dit, il n'y a pas de juste. Mais regardez ce qu'il dit Ézéchiel, chapitre 14, verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, Si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si j'ai lui envoyé la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme pour leur justice, dit l'Éternel. Mais sauf les trois, pas les péchés de tous, sauf les trois. Et il continue. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, si je les dépeuplerais, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Et il continue, ou si j'amènerais l'épée contre ces pays, et si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls, ils seraient sauvés. Et ensuite il parle de la peste. J'ai dit, vous voyez, aucun homme juste, et pourtant dans votre Bible, il y a Noé, Daniel, ils sont des hommes justes. Donc, comment vous, le peuple d'Israël, vous pouvez dire que ces serviteurs, c'est vous? Avez-vous expié, pris sur vos épaules les péchés des gens du monde? Non. Voilà le. Et ensuite, on a continué. Regardez le verset 9, la première partie. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Quand Israël, il a été sur un tombeau? Jamais. Donc, il s'agit de quelqu'un d'autre. Ou sinon, son tombeau avec le riche. Voilà, il n'a pas eu de tombeau, mais en plus, son tombeau, il a été mis avec des riches. Si vous regardez la vie de Jésus, Jésus, il a été mis sous le tombeau d'un riche. Donc Israël n'est pas ses serviteurs. Et il continue le verset. Quoi qu'il n'ait point commis de violence. Je dis, est-ce que Israël, il n'a jamais commis de violence? Il a dit, ah non, comme tout le monde. Voilà, mais ici il dit, il n'a jamais commis de violence. Donc ce n'est pas Israël. Il continue, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Oh là là, là, le Seigneur, on regarde les Targum ou la Torah, il n'y a eu que des infidélités d'Israël. Bien sûr, Dieu a pardonné, donc ne me dites pas que c'est Israël, les serviteurs. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Alors, il est resté un peu. Alors, mais j'ai continué parce que le chapitre de 53, voilà, il continue. Mais même, il commence dans un endroit où nous, on a un partage, 52, 13. Alors ici, Esaïe, il présente les serviteurs. Je lui dis, vous voyez, ce n'est pas Israël, le serviteur souffrant. Mais alors, qui c'est ce serviteur? Et vous regardez, 52, verset 13, il dit, « Voici, mon serviteur prospérera. » Il dit, « Mon serviteur prospérera. » Israël, est-ce qu'il a prospéré? Après la division du royaume, il a été amené en captivité par cause de l'infidélité. Il est devenu en ruine, il a perdu son royaume. Il n'a pas prospéré du tout. Mais alors, ici, le Seigneur, il dit, mon serviteur prospérera. Et ensuite, on continue à lire. Il montera, il s'élèvera bien haut. Et j'ai dit, ici, le vrai serviteur, Jésus-Christ, en donnant sa vie sur la croix, il s'est élevé. D'ailleurs, il a été élevé dans le ciel. D'abord, il a dit, il montera. Oui, il est monté sur cette colline avec tous les péchés. Il est monté et ensuite il a été élevé. Et ensuite, il s'élèvera bien haut. Il s'est assis à la droite de Dieu. Je dis, serviteur Israël, est-il assis à la droite de Dieu? Et il continue encore. Et il dit, le verset 13, regardez ce qu'il dit. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il le relèvera. Dès même qu'il y a plusieurs sujets. Voilà. Et ensuite, il décrit les souffrances qu'il a subies, ce serviteur. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. J'ai dit, ce n'est pas un serviteur ici, ce n'est pas une nation, c'est un homme. Tant son visage était défiguré. Vous savez que Jésus, on lui a mis cette couronne d'épines. Ce n'est pas une couronne d'épines juste comme ça. Les épines étaient de 5 à 8 centimètres. Et dans les évangiles, il nous est dit qu'on lui a enfoncé ça sur la tête. Et vous savez, lorsqu'on enfonce une couronne sur la tête avec ces épines-là, ça dégouline partout. Hein. Et qu'est-ce qu'il est dit? Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Il était dans un état qu'on ne le connaissait pas. Pour ceux qui ont vu le film « La Passion de Jésus-Christ », hein, de Mel Gibson. Il retraçait à l'extrême, hein. D'ailleurs on voyait que du sang. Hein. Mais Jésus-Christ, il était irreconnaissable à cause de tout ce qu'il a subi. Son visage même, on ne pouvait... J'ai dit, ici, il ne parle pas d'un peuple, mais il parle d'un homme. Et ses serviteurs, c'est Jésus-Christ. Et ici, il nous est dit qu'il s'est bien assis, bien haut. C'est le triomphe de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il l'a élevé pour ce qu'il a fait, et il est assis à la droite de Dieu. J'ai dit, vous voyez bien qu'il ne parle pas d'Israël, mais il parle de ce Messie que vous continuez à attendre. Et il continue au verset 14. Tant son visage était défiguré, tant son aspect défiguré de celui des fils des hommes. Il a été maltraité. Si vous lisez les évangiles, vous savez, la souffrance de Jésus-Christ a commencé au jardin d'Éden, ou pas au jardin d'Éden, à Gethsémané. C'est là que toute la souffrance a commencé. Et c'était une souffrance encore plus grande que celle qu'il a prise sur la croix. Parce que là, il ressentait vraiment le poids qu'il était sur son épaule. D'ailleurs, à un certain moment, en tant qu'homme, vous le savez vous-même, à un certain moment, il a dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. S'il est possible, mais c'était impossible. C'était impossible. Et c'est là qu'il y a... Même les disciples, hein, vendredi, j'ai dit aux frères et sœurs qui étaient là, j'ai dit qu'après une vingtaine de minutes, je me sens un peu... voilà. Je n'arrive pas à rester concentré, hein, lorsque je prie. Vous savez, les apôtres, ils ont fait quoi lorsque le Seigneur Jésus lui a dit « Priez avec moi ». Ils se sont tous endormis. Je ne m'endors pas. Hein. Mais... voilà, j'ouvre la Bible et je lis. Je peux rester des heures à lire la Bible sans m'arrêter, mais dans la prière, voilà, j'ai cette faiblesse-là et je me suis confessé devant mes frères et sœurs vendredi. Voilà, c'est quelque chose. Mais les apôtres aussi, ils se sont endormis. Et ici, le Seigneur, il a souffert, même en voyant ceux qu'il aimait s'endormir, n'est pas partager cette souffrance. J'ai dit, ici, ce n'est pas un serviteur Israël, mais c'est quelqu'un qui a été envoyé de Dieu, qui a pris les péchés de tous. Lui, oui, il les a pris. Il a voulu l'éviter parce que mourir crucifié, ce n'était pas quelque chose de très agréable. Et Jésus, en tant qu'homme, il a ressenti ces choses-là. Voilà pourquoi il a commencé là l'histoire. Et au verset 15, il dit « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » il a souffert et martyr, il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité, mais il dit « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Voilà, nous qui sommes des chrétiens. Le frère, il a dit, est-ce que vous croyez que Dieu est puissant, que Dieu est grand? Mais voilà, c'est notre sujet de gloire, de joie, que Jésus-Christ, un homme, le Messie, il est mort pour mes péchés. Que grâce à lui, je peux dire aujourd'hui, je suis pardonné. Et ce n'est pas du tout grâce à Israël. Parce qu'Israël, il est toujours dans son péché. Et c'est ça que ces messieurs, ils n'arrivaient pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement influencé par des gens qui, comme les pharisiens, qui par jalousie, ils ont livré le Seigneur Jésus. Ils ne voulaient pas de lui. Donc voilà, ils ont chargé la loi. Ils ont donné des lois que le Seigneur n'avait pas données. Vous vous rappelez un peu les pharisiens lorsqu'il est rentré dans le temple. Voilà, moi je donne la dîme, je fais ça. Mais, et le Seigneur il a dit, c'est pas parce que tu fais toutes ces choses-là que tu vas être justifié. Parce que c'était tous des commandements que les hommes ils avaient rajoutés. J'ai dit aujourd'hui vous observez la loi, mais où Dieu par et à travers son Messie, a-t-il dit de continuer à observer la loi? Au contraire, il a dit, avant on offrait des sacrifices, jusqu'à la venue du sacrifice parfait qui est Jésus-Christ. Il a aboli les sacrifices et depuis Jésus-Christ, plus de sacrifices. D'ailleurs, voilà pourquoi aussi le temple de Jérusalem a été détruit. Pourquoi? Parce que les sacrifices, on les faisait à Jérusalem. J'ai dit, aujourd'hui, vous vous obstinez à offrir des sacrifices partout où vous voulez, mais si vous lisez votre Torah ou votre Targum, c'est marqué que les sacrifices, ils ne sont agréés que dans le temple. Mais il n'y a pas de temple. Donc, s'il n'y a pas de temple, Dieu n'agrée pas ces sacrifices. Ces sacrifices, ils ont été abolis. Oui, ici, il nous parle du Messie, qu'il sera un sujet de joie. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de... Pas de tous les peuples, mais de beaucoup de peuples. Pourquoi? Parce que celui qui a la joie, c'est celui qui l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Si on n'a pas Jésus-Christ dans notre cœur, on n'a pas cette joie. Mais pour tous ceux qui le font rentrer dans son cœur, ils ressentiront cette joie d'avoir un tel Sauveur, un tel Seigneur et un tel Messie. Il a dit, comment vous aussi, chrétiens, vous croyez dans le Messie? Oui, on croit dans le Messie. Parce que le Messie, croire dans le Messie, c'est le point central de l'Évangile. Ah, vous en souvenez de Jésus lorsqu'il a dit « Que disent les gens de moi ?» Ils ont dit « Oui, Jean-Baptiste, Élie. » Il a dit « Mais bon, les autres, oui, mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, il a dit « Voilà, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus, il lui a dit à Pierre « Cette réponse ne vient pas de toi, hein, mais c'est mon Père qui te l'a donnée. » Parce que Pierre, on connaît la suite de Pierre. Hein, à un certain moment, hein, Paul lui avait dit qu'on est tous des chrétiens. Et lui, Pierre, lorsqu'il avait des chrétiens qui n'étaient pas juifs, il ne mangeait pas avec eux. Hein. Et le Seigneur lui avait montré la nappe, vous en souvenez, hein, où il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Et il lui a dit, mange. Il a dit, ah non, Seigneur, moi je ne mange pas de la viande impure. Hein. impur parce que la loi, il le disait. Mais le Seigneur, il a dit, c'est moi qui te dis de manger, et tu manges. Voilà pourquoi c'est très important cette question-là. C'est très important de croire ces choses-là. Hein? Et vous savez, il nous est dit aussi ce sujet de la devant lui, des rois fermeront la bouche. Oui, parce que normalement, les rois, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent, c'est eux qui mettent la loi. Mais avec la venue de ce Messie, ces rois même, ils n'osent plus rien dire. Vous vous en souvenez, Paul, devant Félix. Voilà, il y avait parlé de Jésus, de la résurrection et tout ça. Il a dit, je vais t'entendre une autre fois. Et cette parole, il a été annoncé avec les apôtres, avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais regardez comment il commence le verset 53, le chapitre 53 au verset 1. Parce que cette parole, c'est 700 ans avant qu'il l'annonçait. Mais lorsque le Messie est mort, les disciples l'ont annoncé cette parole. À des rois, et des gens ils se sont convertis. Et il commence au verset 1. Qui a cru à ce qui était annoncé? Voilà. Qui a cru? Il a été annoncé, il est venu, il accomplit ce que le Seigneur demandait, mais personne n'a cru. Qui a cru? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Voilà pourquoi il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Devant le Seigneur, il s'est élevé comme une faible plante. Et pourtant, il était Dieu. Et pourtant, il s'est élevé comme une faible plante, dans la faiblesse d'un homme. J'ai dit, est-ce que c'est le peuple d'Israël, toujours, ça? Et il continue, et il dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, un rejeton. Rejeton, dans beaucoup de traditions, il y a le mot rameau. Rameau. Mais le mot en grec, c'est diokas. Et diokas, ça signifie nourrisson. Ça, c'est pour nous montrer que le Messie, il est venu, il est né, il a grandi, il a appris toutes les choses qu'il devait apprendre en tant qu'homme. Il a grandi, et l'Évangile nous le dit, il a grandi en sagesse et en connaissance. Les gens au temple, ils l'entendaient, ils disaient, mais d'où est-ce qu'il lui vient toute cette connaissance? Où est-ce qu'il a appris? C'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsqu'on entend quelqu'un. Mais où est-ce qu'il a été? À quel institut biblique il a été? Nulle part, le Seigneur, il les a acquises au pied, un peu comme Marie. Hein? Voilà pourquoi il dit, comment rejetons? Pour dire qu'il est venu, il est le Messie, il est venu, il a été un rameau, un rejeton, un nourrisson, il grandit. Et c'est ça qui a fait Jésus. Arrivé à l'âge de 30 ans, c'était l'âge où était déclaré homme, et il entrait dans le service. Et c'est à partir de là. Je m'en souviens toujours, le film de Ben-Hur, il avait Joseph qui travaillait là, hein, qui travaillait le bois. Il rentre, monsieur, il a dit, mais est-ce que tu m'as préparé la charrette? Ah, il a dit, non, j'ai pas le temps, j'ai pas encore. Où il est ton fils? Ah, lui, il a dit, il est un feignant. Il a dit, non, il n'est pas feignant. Il travaille. C'est vrai, il travaillait. Depuis l'âge de 12 ans, il travaillait. Vous vous souvenez, lorsque les parents, ils l'ont perdu. Ils croyaient qu'il était avec d'autres personnes. Il n'y était pas. Il a dit, où tu étais? Pourquoi tu nous as fait ça? Et il a dit, mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Il était dans le temple. 12 ans, il posait des questions et il répondait au grand prêtre. C'est lui le Messie. C'est lui, comment rejetons, hein? Et aussi, il nous a dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On voit tellement d'images aujourd'hui de Jésus, n'est-ce pas? Des cheveux longs, un bel homme. Hein? Mais est-ce qu'il y avait... Je le dis, mais comment ça se fait? qu'aujourd'hui, dans votre loi, Targum, il y a marqué de ne pas faire des images. Vous voyez, je le dis, il n'y a pas que chez vous qui vous êtes dans l'erreur, mais il y a beaucoup de gens qui, soi-disant, ils connaissent ce que Dieu a dit dans sa parole. Comme j'ai dit ce matin, lorsque je parle, ou lorsque des enseignants, ils parlent de quelque chose qu'il est mal enseigné, ou des faux prophètes et tout ça, on ne juge pas. Mais on a discerné qu'ils sont dans un enseignement qui ne vient pas de Dieu, et nous devons intervenir. C'est notre devoir d'intervenir. Si nous ne le faisons pas, nous allons en prendre pour notre gras. Il nous est dit dans Ézéchiel, j'étais établi en tant que sentinelle. Si nous parlons avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas la voie du salut, et nous ne lui disons rien, nous n'agissons pas bien. Nous devons lui dire, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais je m'en fous ce qu'il pense de moi. Moi, je te dis les choses que Dieu veut que je te dise, pour que tu puisses rentrer dans la volonté de Dieu, et pas autre chose. Et c'est ça qui est très important. Et il continue, son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est vrai que, à regarder Jésus sur la croix, ou quand il a été flagellé, insulté, il ne devait pas être beau à voir. Même Pilate, après l'avoir flagellé, il a dit, « Voici votre roi, voici l'homme. » Il ne savait pas, quand, il ne pensait pas, mais il disait la vérité. « Voici l'homme. » Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autres hommes, vrais hommes, justes, et qui ont toujours vécu selon la volonté de Dieu. Voici l'homme. C'est ça ce qu'il nous dit. Et au verset 3, il décrit, il dit, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Je dis, mais ici, il parle de qui? Du peuple d'Israël. Mais lui, il est juif. Hein? Est-ce qu'il parlait ainsi de sa propre nation? Et j'ai continué, il dit, « Cependant, hein, c'est marqué au 4, hein, c'est son nos souffrances qu'il a portées. » C'est ce qu'il a fait Jésus, le Messie. Hein? Si nous pouvons dire aujourd'hui, je suis sauvé, c'est grâce à Jésus qui a porté nos péchés. Et ce n'est pas le peuple d'Israël. C'est Jésus. Il continue, il décrit. Si vous continuez à lire, on pourrait le lire tous les chapitres. Hein? Si vous continuez à lire, on dirait que cet homme-là, Esaïe, 700 ans, il était là. Présent, un témoin oculaire. Vous continuez à lire et vous voyez tout ce que Jésus il a souffert sur cette croix. Sur cette croix. Et c'est ça que, et au verset 12 même, voilà ce qu'il dit. 11 même. À cause du travail de son âme, il rassasira son regard. À cause de ce qu'il a fait sur la croix, il donnera la joie. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste. Israël n'est pas juste. Mais mon serviteur juste, Jésus est juste. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra? Il faut le dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un ici se présente et dit, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Pour ma part, il y en a beaucoup qui se lèvera. « Oui, 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 oui. » Ce n'est pas pour vous. Hein? Mon serviteur juste. Et c'est Dieu qui parle ici. Hein? Car c'est Dieu qui justifie. Hein? Et pas seulement il est juste, ou parce qu'il est juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il justifiera beaucoup d'hommes. Ben, nous, nous sommes dans ces cas-là. Ce n'est pas les serviteurs Israël qui m'ont justifié. Non, au contraire. Aujourd'hui, j'ai dit au serviteur Israël, comme on dit, je lui dis, tu es sur une mauvaise pente. Dieu, il t'appelle. Tu attends le Messie, mais le Messie, il est déjà venu. Et il t'attend. Et il t'attend. Et il dit encore, verset 3, 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Les grands. Et il partageait les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Lorsque Jésus il est monté sur la croix, il est ressuscité et il a été élevé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. C'est là qu'il a pris. Et il dit aussi, et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mais voilà, Jésus, il reflète cela. Il a été crucifié entre deux malfaiteurs. Ce n'est pas Israël qui a été mis entre deux malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il intercède pour les coupables. Et vous savez, qui c'est qui est dans la gloire maintenant? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le peuple d'Israël. Un jour, le peuple d'Israël, Dieu, il retournera à s'occuper de lui. Mais ce serait une gloire terrestre. Parce qu'Israël, c'est le peuple terrestre des dieux. Et il aura fait des promesses, les promesses du royaume. Mais ce qui concerne le royaume, il ne peut pas avoir des royaumes s'il n'y a pas des rois. Et les rois, c'est le Messie qui est déjà venu et que vous, vous attendez. Voilà ce qu'il nous dit Ésaïe 53. C'est l'évangile. Hein? Il est venu au monde, ce Messie, il est venu. Il a grandi dans la connaissance et de la sagesse de Dieu. Hein? Il a prêché l'évangile. Il a été maltraité, il n'a pas été accepté, il a été maltraité, puni. Dieu même, il l'a puni. Pourquoi? Parce que sur lui, il y avait tous nos péchés. Ici, on avait un frère qui est décédé là, que jamais il pourrait dire, oui, Jésus, hein, il est mon frère. Pourquoi? Parce qu'il avait une opinion très grande. Ce n'est pas qu'il soit une mauvaise opinion, hein, mais c'est ça. Il disait, non, il n'est pas mon frère, il est mon Dieu. Mais Jésus, il a dit, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus. Et nous devons accepter toutes ces choses-là. Il a été élevé et maintenant, il est notre souverain sacrificateur. Et il intercède pour nous. Je dis, est-ce que le peuple d'Israël, je dois attendre que Dieu rétablisse le peuple d'Israël pour qu'il puisse intercéder pour moi? Il dit, il intercède. Il est présent. Et ça, c'est le Messie. C'est le Messie. Et nous devons croire en cela. Car il nous a dit, Jean, il nous le dit, si vous ne croyez pas Jésus-Christ venu en chair, vous avez l'esprit de l'Antichrist. J'ai dit, vous, en tant que peuple juif, vous êtes gardés sous l'observance de la loi, vous ne croyez pas que Jésus est le Messie, donc vous ne croyez pas que Dieu est devenu chair. Donc, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ça que le Seigneur il attend de vous. De vous tourner vers lui, de croire. Comme il a dit le frère tout à l'heure, il a lu dans Matthieu 28, hein, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur les cieux. » À qui? À Israël? Non. Au Messie, à Jésus-Christ. Et je serai avec vous tous les jours. Ne craignez pas. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et je suis avec vous. Voilà Isaïe, c'est ce qu'il dit. Hein. Et voilà ce que nous devons annoncer à ces gens-là. Ce monsieur-là, il ne m'a pas donné de réponse. Hein. Bien sûr, il ne s'est pas converti. Je sais pas. Ça, maintenant, il connaît la vérité. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, « Bon, je vais aller à l'église. Je vais assister au culte, même s'il ne croit pas. » Il entend la prédication de la parole, mais il ne fait pas attention. Vous savez, il est responsable. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu. Et s'il continue à ne pas écouter ce que Dieu dit, alors il est responsable. Il ne peut pas dire, oui, mais moi je ne savais pas. Non, tu savais. Tu croyais être rentré dans cette église par hasard. Mais ce n'est pas les hasards. Ce n'est pas les hasards. C'est Dieu qui t'a mené là pour que tu puisses entendre, écouter et mettre en pratique la parole. Et que tu puisses revoir ta vie, que tu puisses te repentir, que tu puisses te convertir. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il a entendu le message de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il y a des gens qui disent, je m'en fous. J'étais là dans cette église. Mais tu es responsable maintenant. Jusqu'à quand on ne connaît pas la vérité? Mais lorsqu'on entend la vérité, on est obligé de prendre la décision qu'il faut. On ne peut pas dire, bon, c'est pas grave, je ne fais rien. Non, tu as entendu et tu es responsable. Voilà ce qu'Isaïe voulait nous présenter. J'ai dit, il est bien écrit la même chose dans votre livre. Oui, oui, mais voilà. Et tout ça, pourquoi ? Parce que il y a eu des gens qui ont voulu changer la parole en d'autres choses qui ne mènent à rien. Hein, on a lu dans nos études le mercredi, hein, dans Isaïe 9, ceux qui vous enseignent, ils vous enseignent des faussetés. Et ceux qui les mettent en pratique, ils s'égarent. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir lorsqu'on a entendu la vraie vérité de la parole de Dieu et pas continuer à rester là où le mensonge est enseigné. Sortez du milieu d'eux. Ne fréquentez plus les endroits où la parole n'est pas annoncée, où il n'y a pas la vérité. Ne restez pas dedans. Mais c'est Dieu qui dit ça. Hein. Sortez. Nous étions du monde, Dieu il nous a appelés. Donc, nous sommes dehors. Ne continuons pas à fréquenter ces endroits où la parole n'est pas prêchée. J'ai dit, voilà, maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Et c'est la même chose pour chacun de nous ici. Hein? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à nous de prendre les dispositions nécessaires pour que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Amen.